Oui, nous voilà de retour. Et donc avec Emma, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de... qu'est-ce que nous dit le mouvement des Gilets jaunes sur la période, s'il te plaît?
Bon, ben, on peut dire que ce mouvement a surpris tout le monde, hein, de l'État à la classe politique, des experts médiatiques aux syndicats, et qui restera sans doute dans l'histoire comme un événement marquant un changement de période. Parce que ce qui est dénoncé, c'est le mépris de classe qui est montré par les élites politiques, médiatiques ou syndicales, de droite comme de gauche, à l'égard des gens d'en bas. Et là, on voit des pauvres qui se battent pour leur dignité, pour la justice sociale et fiscale, pour une meilleure répartition des richesses et plus de démocratie directe.
Oui, et les slogans des manifs reflètent bien cet état d'esprit. Juste pour donner quelques exemples, on a pu lire « Ma pancarte est trop petite devant tant d'injustices », on entend régulièrement « Contre leur sale business pour le partage des richesses ». Et même au niveau des AG et des débats, en fait, plus on discute et plus il y a une remise en cause de l'exploitation. Donc on va bien au-delà de ce qui était dit au départ.
Voilà. On peut aussi dire que cette mobilisation découle d'un ascenseur social en panne, parce qu'elle reflète vraiment l'incertitude des classes populaires sur leur avenir et celui de leurs enfants. Et on l'a vu fin 2018, quand il y a eu la mobilisation de la jeunesse contre Parcoursup, en même temps que les manifestations Gilets jaunes. Sans avoir l'ampleur du mouvement anti-CPE de 2006, cette mobilisation a été importante. Et surtout, ce qui était remarquable, c'était qu'elle est venue des LEP, hein, des lycées d'enseignement professionnel, et pas seulement des lycées généralistes, comme c'est souvent le cas. Et les LEP, c'est les enfants des Gilets jaunes, en fait, hein. Et l'État a été particulièrement répressif contre ce mouvement. On se rappelle l'épisode de Mantes-la-Jolie le 7 décembre où une centaine de lycéens ont été interpellés et forcés de rester pendant des heures à genoux, les mains derrière la tête.
Ouais. Hein. Alors, peut-être maintenant, Emma, est-ce que tu peux... Alors, on peut se poser la question de pourquoi le mouvement des Gilets jaunes s'est déclenché à ce moment-là. Et aussi, un truc qui nous interpelle, c'est en fait, pourquoi il est particulièrement dirigé contre l'État et ses gouvernants plutôt que contre le patronat, en fait.
En fait, c'est surtout l'État qui est visé parce qu'il est tenu pour largement responsable de la situation économique et sociale. Et en plus, on peut dire que cette dénonciation est personnalisée parce que le slogan « Macron démission », il revient absolument tout le temps. Hein, Macron est considéré, à juste titre, on pourrait dire, comme illégitime puisqu'il n'a obtenu que 18% de voix au premier tour de la présidentielle et il a été élu au second tour parce qu'il avait Marine Le Pen comme adversaire. Hein. Donc l'État, en fait, il a longtemps été vu en France, en particulier dans l'électorat de gauche, comme le défenseur du service public, c'est-à-dire des services et équipements collectifs dont il a été le maître d'œuvre et qui ont été financés sur fonds publics. Beaucoup attendaient de l'État donc qu'il défende les classes populaires contre les menées du patronat, ou du moins qu'il soit un agent neutre dans le système capitaliste. Mais c'est évidemment impossible, parce que les institutions étatiques, elles sont partout dans le monde, des instruments actifs au service du capitalisme. L'État français l'a particulièrement démontré ces dernières décennies, puisque, quelle que soit leur couleur politique, les gouvernements successifs ont organisé le délitement des services publics au profit d'intérêts privés, en même temps que les taxes pleuvaient sur la population et que les revenus diminuaient pour les moins riches.
Oui. Oui. Ouais, ah oui, il y avait des exemples de pancartes où, par exemple, il y en a une, c'était « Quand tout sera privé, on sera privé de tout ».
Oui, c'est toujours sur la privatisation que la revendication revient contre la privatisation. Il faut rappeler que la gauche, elle a été au pouvoir sous les deux mandats de Mitterrand, d'abord seule, hein, de 80 à 86, puis ensuite dans des gouvernements de cohabitation avec Chirac et puis Balladur, 86-95, et ensuite il y a eu le gouvernement Jospin de la gauche plurielle, 97-2002. Et si on dresse le bilan de la gauche pendant ces périodes, on peut faire au moins quatre remarques. D'abord, les gouvernements dits socialistes ont appliqué donc des politiques néolibérales par rapport aux entreprises comme par rapport aux services publics. On a vu des restructurations industrielles avec des délocalisations, l'assouplissement des conditions juridiques d'embauche et de licenciement, le durcissement des conditions d'indemnisation du chômage, une aggravation de la hiérarchie salariale et de l'inégalité entre les rémunérations du travail salarié et celles du capital. Dès Mitterrand, hein, dès le mandat de Mitterrand, il y a eu l'instauration d'un forfait hospitalier, les premiers déremboursements de médicaments, l'allongement de la durée de cotisation retraite, la réduction du niveau des pensions versées. Bon, De plus, pendant que l'État effectuait des coupes dans les dépenses publiques et qu'il augmentait les prélèvements obligatoires, il y a divers instruments qui, permettant d'accroître les profits capitalistes qui ont été mis en avant pour compenser, on disait, les défaillances du service public. On a vu des assurances, des cliniques, des établissements scolaires, des compagnies de transport privés se développer sur le dos de l'assurance maladie, des hôpitaux, de l'enseignement, des transports du secteur public. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, au cours de ces mêmes années, on a assisté à un délitement des forces militantes du PC et de la CGT, à la fois parce que les bastions ouvriers disparaissaient, mais aussi et surtout parce que le gouvernement étant de gauche, le PC et la CGT ne voulaient pas combattre ou même critiquer franchement sa politique. On y allait mollement. Et les classes populaires ne leur ont pas pardonné, l'état de leurs troupes le montre bien. Troisième remarque, les centrales syndicales qui sont surtout représentées en fait dans les grandes entreprises et dans les villes, elles ont joué à fond le rôle de partenaires sociaux avec le patronat. Alors que les contrats précaires n'ont pas cessé de se multiplier, ces corps intermédiaires, comme on les appelle maintenant, préfèrent en général soutenir dans les plans sociaux les emplois garantis au détriment des précaires quand il y a des plans sociaux. Et enfin, on peut dire que le PS au pouvoir s'est occupé, de sujets sociétaux, la parité homme-femme, le mariage pour les homos, au détriment de la question sociale, pour la faire oublier. La mobilisation en 2016 contre la loi travail et le mouvement Nuit debout, qui ont largement été le fait de l'électorat traditionnel de la gauche, y portait déjà cette critique à l'égard de la politique du PS. Et le PS l'a payé sur le plan électoral.
Tout à fait. Donc on peut voir que le mouvement n'est pas de nulle part, qu'il y a un terreau de plusieurs années, plusieurs décennies même. Et donc ce point va nous permettre de faire une autre petite pause musicale. Nous allons donc écouter « Toi le premier de cordée », une chanson de Situation, composée par une anonyme.
Toi le premier de cordée, quand on bloque c'est pour toi. Nous les derniers de cordée, on se passerait bien de toi. L'Élysée ne t'en fait pas, ça coûtera moins cher sans toi. Tu ferais bien de nous lâcher, ou on pourrait t'étrangler. On a très envie d'un nouvel an sans toi. C'est pas compliqué de comprendre ça. À quoi bon rester si tu es dégoûté par tout ce qui ne te ressemble pas? On ne te retiendra pas. Toi, le premier de cordée, quand on bloque, c'est pour toi, nous les derniers.
Donc là, vous avez eu l'occasion d'entendre donc un extrait de « Toi, le premier de cordée », chanson que vous pourrez retrouver en entier sur Jaune, nos blogs, avec d'autres chansons et d'autres informations sur le mouvement Gilets jaunes. Et cette pause musicale nous permet d'enchaîner sur la troisième partie de ce sujet, à savoir « Que peut-il arriver demain ?»
Vu ce qui a été décrit précédemment, là, de larges fractions de très précarisées du prolétariat sont à présent ignorées par les partis et syndicats dits de gauche. Elles sont devenues invisibles pour eux, géographiquement déjà. De plus, depuis le début du nouveau millénaire, l'État a accentué et accéléré la casse des équipements et des services collectifs. Et il l'a fait particulièrement parce qu'il a lui-même aggravé la détérioration des finances publiques, notamment en allégeant les impôts et les cotisations sociales au profit des plus riches, et en pratiquant un sauvetage massif du capital financier en faillite ou sur le point de l'être en 2007-2008, quand il y a eu la crise des subprimes. Du coup, aujourd'hui, la priorité pour Macron, en dehors de la réforme du Code du travail, c'est la maîtrise de l'endettement public. Et sur cette base, son grand débat ne peut être que bidon. D'ailleurs, personne n'y croit. En fait, l'État ne changera rien au SMIC, il l'améliorera pas, au CICE, soit environ 40 milliards d'aides aux patrons. L'État ne rétablira pas l'ISF, il continuera à vouloir allonger l'âge de départ à la retraite. On peut s'attendre à des mesures gouvernementales minimes, genre sur la limitation de vitesse à 80 km/h ou la réduction du nombre de députés. Bon. Mais la taxe sur les carburants n'est pas supprimée, il faut le rappeler. C'est juste sa hausse pour cette année. Il y a des augmentations de tarifs qui sont annoncées concernant les autoroutes, l'électricité, les assurances, les mutuelles, etc. Donc le pouvoir d'achat va encore baisser. Et puis le gouvernement poursuit le rythme de ses réformes. Il y a les privatisations, on voit avec Aéroports de Paris, la Française des Jeux et tout ça. Dans l'éducation, après Parcoursup et la réforme des lycées et du bac, maintenant dans le primaire, c'est l'école de la confiance. Ce qui est au programme dans la fonction publique, c'est des suppressions de postes, les salaires au mérite, le recours accru aux vacataires. L'État cherche aussi à faire des économies sur les allocations chômage. Enfin, ça n'arrête pas. En face, il y a le mouvement des Gilets jaunes qui revendique à la fois une amélioration des bas revenus et le maintien des équipements et des services publics indispensables à leur survie. Et les ronds-points, en fait, ont été de formidables lieux de politisation, comme le sont les entreprises quand il y a des mouvements de grève ou les rues quand il y a des manifestations. Les Gilets jaunes ont noué de forts liens de solidarité lors des blocages et grâce aux assemblées générales aussi maintenant. Du coup, même si ce mouvement s'arrête, il laissera des profondes traces dans la société. Des générations militantes vont suivre.
Tout à fait. Sur la question de ces générations militantes et de l'auto-formation, la question est que ces gens en fait ont extrêmement rapidement développé en fait un habitus militant, mais que c'est assez inespéré. Peut-être que de la part de certains mouvements de gauche, ça peut énerver dans le sens où ces gens se battent depuis des années sur ces bases-là, des questions salariales et tout, mais qu'ils n'ont jamais réussi à ni vraiment obtenir de claires victoires depuis longtemps, et que là en fait il y a cette mobilisation, qui est cette ampleur, qui n'a pas encore gagné, mais en tout cas sur la question de l'auto-formation militante sur le terrain, c'est une preuve que les Français ne sont pas si dépolitisés que ça, ce qu'on veut bien le dire, et que le terrain fait politique.
Ouais, et on le voit bien avec les Gilets jaunes, ils ont compris plusieurs choses. D'abord que travailler ne garantit pas contre la précarité. De même qu'étudier ne donnera pas forcément un bon métier ou même juste un emploi à leurs enfants. Ils ont compris que la dégradation des services publics, c'est un choix politique des décideurs pour faciliter le transfert au privé des activités les plus lucratives du secteur public, à savoir la santé et les transports. Ils ont compris que dans cette société qui est qualifiée de très individualiste, la solidarité est possible et nécessaire et que l'établissement d'un rapport de force est primordial pour changer le cours des choses. Et enfin, ce mouvement a permis à beaucoup de rompre l'isolement qu'elles subissaient. Et il a mis au centre du débat la question sociale, alors qu'on nous harcèle depuis des années avec les questions identitaires ou communautaires.
Ouais. Ouais, et pour finir peut-être du coup sur cette émission, je me demande comment faire de chaque jour un samedi pour suivre.
Voilà.
Et vaste question.
C'est sûr que c'est pas gagné parce que les Gilets jaunes ont affaire à forte partie. Elles sont boycottées et calomniées par les médias. L'État met en avant les dégâts économiques, les pertes financières causées par le mouvement avec la chute du tourisme, la dégradation des radars et autres. Donc, à l'approche des européennes et de la présidentielle qui se profile, il y aura bientôt, il y a deux risques si le mouvement retombe. D'une part, que l'extrême droite tire les marrons du feu. D'autre part, que ce soit Macron qui les tire les marrons par refus de l'extrême droite. Alors, comment on peut éviter à la fois la peste et le choléra alors que les médias taisent autant qu'ils le peuvent le taux d'abstention croissant, il faut évidemment dépasser le terrain de l'antirépression, continuer de refuser que la colère sociale soit recyclée dans la participation aux élections. Il faut continuer de dénoncer le grand débat et toutes les tentatives de récupération de cette révolte populaire. Et surtout, vous continuez à se battre contre cette société qui est profondément inégalitaire.
Et tout à fait. D'ailleurs, ce qui est assez remarquable, en fait, c'est que Macron, depuis le début de son quinquennat, tente de gouverner, en fait, sans les 10 corps intermédiaires qu'on a cités tout à l'heure, donc partis, syndicats, associations. En fait, il tient à gouverner sans filtre, avec le peuple, ce qui d'ailleurs, est-ce que c'est pas un peu populiste, lui qui dénonce tant les populistes. Mais surtout, c'est que là, il a face à lui une révolte sans filtre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de direction, et que au final, il a effectivement une révolte sans corps intermédiaire. Et que là aussi où c'est intéressant, c'est que ça, on nous dit depuis très longtemps que la lutte des classes est morte depuis, peut-être depuis la chute du mur de Berlin et de l'effondrement de l'URSS pour certains. Mais en tout cas, on a, je crois, une des preuves en fait que non, la lutte des classes n'est pas morte et qu'elle est toujours bien vivante.
Oui, oui. Et si, en conclusion, on peut dire que les Gilets jaunes, ils ont le mérite d'avoir vouloir inverser la donne dans une société où les riches sont toujours plus riches, les pauvres toujours plus pauvres. Hein. C'est parce que c'est un enjeu qui concerne la majorité de la population. Et maintenant, on voit dans les manifs écolos, féministes, syndicales, antiracistes de ces derniers mois, que tout le monde est obligé de prendre en compte la question sociale qui a été remise en avant par les Gilets jaunes. Et donc de l'intégrer en bonne place dans les revendications. Ça se voit sur les banderoles, dans les revendications en général. Et ça, c'est un bon point.
Eh bien, merci pour ces développements. On va s'écouter une courte chanson, le temps de préparer les quelques brèves que nous allons pouvoir développer durant la dernière partie de l'émission. On va donc écouter Niagara, donc un groupe des années 80, 90 on va dire, avec une chanson qui s'appelle « Pendant que les champs brûlent ». C'était donc Niagara, les champs brûlent, et on va s'écouter pour terminer l'émission, les brèves que Xintia nous a compilées.
Oui, tout à fait. Alors, on n'est pas beaucoup, je vais faire vite. Alors la première, c'est qu'il y a eu la semaine dernière, donc à Poitiers, du 11 au 17 mars, la semaine sans précaire à l'université de Poitiers. Donc c'est des vacataires en fait de l'université qui ont fait grève. Donc c'est-à-dire des personnels d'université qui ont des contrats notamment pour les chargés de cours et qui font grève parce que pour la simple et bonne raison que certains n'ont pas de contrat de travail ou galèrent à en signer et la plupart ne sont toujours pas rémunérés. Par exemple, à titre d'exemple, y en a plein qui ont eu l'information que pour le premier semestre, avec 6 ans de la chance, ils ne seront rémunérés que début avril. 6 ans de la chance. Hein. Donc voilà, ils ont fait grève pour exiger des contrats de travail et une rémunération immédiate. Je ne sais pas ce qu'en pense Yves-Jean et on leur souhaite bien du courage en tout cas. Ensuite, je voulais vous dire juste pendant les vacances de Noël, il y a un nouveau décret Pôle emploi qui est passé un peu inaperçu parce que tout le monde n'est pas en vacances à ce moment-là, les gens travaillent. Et ils nous ont sorti un nouveau décret qui dit qu'en fait, y aura une perte d'indemnité des demandeurs d'emploi s'ils refusent plus de deux offres raisonnables d'emploi. Alors, qu'est-ce qu'on entend par raisonnable ? C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de refuser une offre d'emploi si le salaire nous paraît trop bas, si les conditions de travail ne nous satisfont pas. Et si elles ne correspondent pas au profil qu'on a, voilà. Donc, c'est la porte ouverte à, de plus en plus d'emplois précaires et on va devoir, en tant que demandeur d'emploi, accepter n'importe quel boulot très très mal payé. Voilà.
D'autant plus que en fait, c'est pas une suspension, c'est-à-dire que les droits qu'on a accumulés nous sont privés.
Ah, oui.
C'est-à-dire que si, admettons, on a cotisé 10 ans et qu'on est radié au bout de 5 ans, en fait, on perd les 5 ans de cotisation.
Donc clairement, ça va pousser beaucoup de demandeurs d'emploi à accepter n'importe quel boulot très très mal payé pour faire des boulots de merde. Voilà, super, super. Moi, je termine là-dessus. Voilà, merci.
Eh bien, écoutez, merci à vous, Xintia et Daria, pour... Pardon, Xintia et Emma, pour cette première émission. On va se retrouver donc dans 15 jours pour une nouvelle émission qui portera donc sur l'enfermement des mineurs avec une expérience locale à Loudun, si je me souviens bien. Donc vous pourrez réécouter cette émission la semaine prochaine, puisqu'elle sera rediffusée. Et normalement, on se retrouve pour un direct dans un mois, si tout va bien, sur probablement le thème de la réforme Blanquer. On verra, et probablement que d'ici là, on aura un blog ou un site internet pour nous retrouver, pour nous suivre, et voilà. En tout cas, merci à vous et merci d'avoir écouté Fracture. À bientôt.
Bonsoir.